Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Marquinhos qui baisse le trophée et qui va pouvoir le brandir dans le ciel de Budapest. Le PSG conserve son trophée. Le PSG, après avoir écrit l'histoire, entre dans la légende du foot.
Georges Quirino.
Dans la légende du football, effectivement, le Paris Saint-Germain avec une deuxième étoile désormais brodée sur le maillot. Vous l'avez vécu ensemble avec nous sur RMC hier, avec Jean-Louis Tour en commentaire, à Budapest, avec Jean Bretagne, avec Valentin Jamin. Vous pouvez réécouter les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast. Déjà, on a parlé de Wemby en finale NBA. On a parlé du prochain Tour de France avec Vingegaard qui gagne le Giro. On a parlé du Paris Saint-Germain, évidemment, assez largement, et on va continuer d'en parler. On est avec Christophe Cessieux, avec Pascal Duprat, avec Fred Weiss et Cédric Emmons. Dans un instant, sur le buzzer, on va retourner à Roland-Garros. Tiens, Diane Paris, notre dernière représentante, est-ce qu'elle sauve le Roland-Garros des Français? Elle est en huitième de finale du tournoi. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Ce week-end, emportez votre enceinte portable Tamo de Lexon, une mini-enceinte Bluetooth connectable à l'infini.
À l'infini.
Ouais, à l'infini. Pascal va essayer de broder une deuxième étoile, hein, parce qu'il a gagné hier avec Denis. On va voir s'il va repartir avec le back-to-back ce week-end. Pour emporter votre enceinte portable Lexon, appelez le 32-16, touche 4, envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Si vous voyez le déhanché de Pascal Duprat chaque fois qu'on envoie les jingles, et ben, je vous dis, il ferait danser avec les stars. Tout simplement. Mais juste sur le haut du corps.
Solide sur le bas, mobile sur le haut.
Ouais, c'est ça.
On
c'est ça.
Un super duo avec Vincent. Non, mais,
mais j'adorerais qu'on ait lancé un truc là sur un tcha-tcha Pascal Duprat.
Fred, oh, il a perdu sa hanche.
Fred, tu rêves de faire ça, toi?
Mais je rêve de faire ça, bien sûr.
Tu veux faire quoi?
Tu sais que je suis un kiffeur.
Tu préfères faire Danse avec les stars, Fort Boyard ou Koh-Lanta?
Jamais Koh-Lanta. Ouais. Ne pas manger.
Fort Boyard, un peu grand.
Est-ce que tu peux faire un appel au
remplacer
Fort Boyard? Je voudrais faire Fort Boyard parce que je voudrais montrer.
Je me mets dans ta team.
Qui est le vrai Big Boo? C'est moi.
Ah, c'est vrai? Mais attends, mais de quoi? Tu veux devenir un personnage de Fort Boyard ou tu veux participer?
Fred,
je te lève sur l'île de Léron si tu veux.
Je me mets dans ta team. Je me mets dans ta team.
Mais écoute, je suis chaud.
On lance un appel.
On veut faire Fort Boyard.
C'est incroyable. Fort Boyard, des grandes gueules du sport. On va l'envoyer à Cyril Ferrand.
Pascal qui nous coach.
Allez, Nicolas Pelletier nous rejoint en studio. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Nico, vous l'avez peut-être suivi sur BFM TV hier, il était sur sa terrasse, là, sur les Champs-Élysées, pour commenter un petit peu. Pour prendre de la hauteur, c'est ça, un petit peu de recul. Alors Nico, tu vas monter sur la moto RMC BFM aujourd'hui pour suivre les festivités parisiennes, c'est sport, hein, on le sait. Mais alors, quel est le programme des Parisiens aujourd'hui?
Les Parisiens sont attendus à Roissy autour de 15h, du nord de Paris, escortés par de nombreux motards. Ils rejoindront en bus le centre de la capitale pour arriver directement au Champ de Mars où 100 000 personnes seront présentes afin de célébrer les doubles champions d'Europe. La célébration devrait durer autour de 1 heure avant de rejoindre l'Élysée pour une réception officielle du chef de l'État Emmanuel Macron. Et enfin, le grand moment après 19h30, un grand show musical suivi du retour dans leur maison pour Marquinhos et ses coéquipiers au Parc des Princes devant 48 000 supporters. Les plus fidèles abonnés seront donc dans les travées du stade. Les fans vont célébrer les nouveaux champions d'Europe et pour sécuriser et tout ça, 5780 policiers et gendarmes seront déployés aujourd'hui à Paris.
Ça fait du monde, effectivement. Merci Nico. Évidemment, on se verra tout au long de la journée pour suivre ces célébrations. Et ce soir, après Bartoli Time, donc à 20h, Jean-Louis Tour et Valentin Jamin seront au Parc des Princes pour vous faire vivre cette grande soirée de célébration et tout au long de la journée.
Ça
évidemment,
commence dès 15h.
Vous ne raterez rien. Voilà, avec le Champ de Mars, vous pouvez accéder dès 14h. Nico le disait. Ça commence dès 15h parce que tu es dans l'arrivée
du bus. À 15h, ouais, au Champ de Mars, c'est ça.
Tu vas y aller?
Non, mais je suis à l'antenne.
C'est pour ça que je voulais
faire Nico sur sa moto.
Ah, ils se servent les plats, les deux.
Non, mais parce que l'autre, il est dans Bartoli Time.
Mais non. Mais il est incroyable, ce gars.
Mais non, tu sers les plats, il n'accepte pas.
T'as pas compris que je te faisais la passe D pour qu'il nous dise? Parce que je serai à l'antenne à 15h. Oh là là. Non, parce que parfois, je t'ai dit, entre tout ça, après-midi, tu ne connais plus.
Je suis désolé, les deux, mais je comprends bien pourquoi Nice a eu des difficultés. Parce que collectivement, c'est dur à.
Bien sûr. Et on s'aime.
Deux Niçois, c'est difficile.
Deux stars niçois, c'est
deux Niçois qui signent.
Oh bah tout de suite, tu te prends pour une star.
Non, c'est toi. La nouvelle star, elle est là, la nouvelle star. La vieille star sur le et retour, la nouvelle star. Sur le retour.
Je crois qu'on a besoin d'Alou. Je crois qu'on a besoin
d'Alou. C'est pas une vieille star, t'es un mec sur le retour. C'est pas voilà. Pareil.
Allez, le PSG.
Avec le plaisir d'être avec vous.
Et moi, je te kiffe, y a que de l'amour. Avec cette deuxième étoile consécutive, Paris a encore pris une autre dimension.
Parce qu'il y a qui n'est pas en profondeur, qui est dos au jeu, qui va trouver Dembélé, entrée sur face, oui, le 1-2 avec Valère,
Penalty,
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 Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Penalty, Pen
Ousmane Dembélé a pris sa course d'élan. Il a posé son ballon. Raya est sur la ligne. Monsieur Cyber a sifflé. Dembélé qui frappe. Oui, c'est au fond.
Qui s'arrête dans sa course. Qui frappe.
Oui, il l'a raté. Il l'a raté. Trois pas seulement pour Nuno Mendes face à Raya. C'est parti. Oh, l'arrêt de Raya. L'arrêt de Raya. L'arrêt de Raya. On remet les compteurs à zéro. Allez, Safonov, c'est la balle de Ligue des Champions. Si Safonov l'arrête, c'est gagné. Ou si Gabriel tire à côté, c'est gagné. La course d'élan, c'est parti pour Gabriel. Oh, c'est gagné. Paris remporte la Ligue des Champions fois consécutive. Le PSG l'a fait. Le PSG a gagné la Ligue des Champions et le PSG a réussi son back-to-back.
Ils l'ont réussi, effectivement, son back-to-back. Marquinhos l'a dit hier au micro du diffuseur. On en avait zéro l'an passé des Ligues des Champions. Maintenant, on en a deux Ligues des Champions palmarès pour le PSG. C'est comme la Juventus. C'est comme Chelsea. Alors, c'est évidemment loin derrière. Le Real Madrid avec ses 15 couronnes. Le Milan AC avec 7. Le Bayern et le Liverpool à 6. Le Barça à 5. Mais bon, les GG, je vais vous poser quand même cette question ce matin parce que la séquence est dingue depuis le début de la décennie. Le PSG, avec cette deuxième victoire, le PSG est-il entré dans le cercle fermé des géants d'Europe? Pascal Duprat.
Bien sûr que oui.
Christophe Cessieux.
Plutôt oui.
Frédéric Baïs.
Évidemment que non.
Cédric Emmons.
Évidemment que oui.
Vous venez évidemment au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-424-424. Pascal, pourquoi c'est un géant européen aujourd'hui?
C'est un géant européen parce qu'il a deux Ligues des Champions à son actif et qu'ensuite il y a peu de clubs qui en ont davantage que deux. Déjà peu qui en ont deux. On peut les citer, je crois qu'il y en a six, je ne vais pas les citer. Mais après, maintenant, il faut aller chercher l'Ajax et Manchester United qui en ont trois. Puis ensuite, ça sera uniquement Liverpool, Barça, le Bayern et le Real.
Tu penses qu'ils ont... Il vient de citer beaucoup de géants quand même.
Mais ça veut dire que malgré tout, pardon, Georges...
T'en as moins de 10 là, t'as moins de 10
moins
géants,
de 10, ouais, donc malgré tout, le Paris Saint-Germain, qui était à Vierge, hein, il y a encore un an... Vierge, il y a un an, on a déjà deux et parmi...
Mais l'institution s'est installée aussi, un sort de respect pour toi.
Oui, mais oui, le PSG est respecté.
Puis il y a des parcours, ils ont perdu une finale, hein, je dis pas de bêtises.
Bien sûr.
2020, oui, l'année du Covid. Donc à partir de là, quand tu perds une finale, tu en gagnes deux, du moins tu t'installes parmi les grands qui ont
trois coupes européennes, puisqu'ils avaient gagné la Coupe des Coupes.
Et puis surtout back to back. Donc c'est là où tu plantes un...
Même aller plus loin. Ils sont dans le dernier carré 5 fois sur les 7 dernières années en Ligue des Champions.
Dans la dernière décennie, il y a alors, pas de débat.
Le seul bémol, c'est la jeunesse du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que par rapport à tous les autres géants d'Europe, c'est un club qui est récent, 1970, alors que le Real, le Bayern, Liverpool, tous les autres ont plus d'un siècle d'existence. Donc c'est en ça que Paris peut-être ne peut pas encore s'asseoir à la table des géants, mais est juste invité pour l'instant pour
son histoire.
Son histoire est encore un peu récente pour le permettre de regarder le Real les yeux dans les yeux.
Elle est contemporaine malgré tout, Christophe, et ça compte.
Mais rappelle-toi quand Paris même est arrivé dans le championnat de France, avant d'être reconnu par les grands du championnat de France, les OM, les Lyon, les Saint-Etienne et tout ça, il a fallu des années, il a fallu des titres accumulés pour qu'il fasse partie de la table des seigneurs. Mais aujourd'hui, avec deux titres d'affilée, il n'y a que le Real dans la nouvelle formule, c'est-à-dire quand on est passé de la Coupe à la Ligue des Champions, il n'y a que le Real qui a réussi à gagner deux fois de suite, trois fois de suite même.
Fred,
j'ai l'impression qu'on n'a pas tous la même notion de ce qu'est un géant. Un géant, pour moi, c'est le top 3. Top 3, c'est des géants, sinon le reste, c'est des grands. Il y a évidemment plein de grands clubs en Europe.
Et on parle de géants. Donc, tu veux dire le Real, le Bayern et Liverpool alors.
Real, Milan, Liverpool, Milan. Tu peux mettre Bayern à peu près à égalité, mais aussi pour leur régularité. En fait, ce qui me surprend, c'est que toi, Christophe, qui parlait de culture de l'instant tout à l'heure, on est sur la culture de l'instant. Alors oui, c'est un grand d'Europe maintenant grâce à ces deux.
Et en plus, on passe tout
complètement. Non, c'est pas la question qu'on pose. Il faut savoir lire. C'est ça le problème. Le problème, c'est des géants ou des grands. C'est des grands d'Europe. Ce n'est pas des géants.
Et un jeune club qui gagne, qui fait qui fait deux titres,
qui fait des champions, qui a fait une finale. En fait, il faut plus de densité, plus de volume. Et effectivement, malheureusement, ils ne sont pas gagnés par leur existence.
Règle des trois géant.
Pour moi, des géants, c'est en fait des géants, c'est un peu comme à des Jeux Olympiques, des médaillés. Des médaillés,
non, mais c'est toi aussi des
six qui en termes de géants ici.
Pourquoi c'est Fred Weiss qui décide que ça s'arrête à trois?
Mais parce qu'à un moment, des géants, c'est tu peux pas mettre tout le monde dans les géants.
C'est que t'as envie d'être contre, c'est tout.
Mais non, mais pas du tout. Tu peux pas mettre tout le monde dans les géants. T'as besoin de mettre des équipes qui le méritent.
Arrête de regarder tout le monde.
Mais c'est son ADN.
Il y a besoin de mettre des gens. En fait, vous ne lisez pas les conducteurs déjà, et ensuite, ou alors vous comprenez pas les questions, non, mais... ce qui est possible pour toi, Cédric. Mais réellement, ce qui me dérange, c'est que on peut pas d'un seul coup, sous prétexte qu'ils ont gagné deux Ligues des Champions, les inclure dans le Real Madrid, par exemple. Pour moi, c'est une équipe de géants, parce qu'ils le seront toujours. Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie, Pascal? Oui, ils sont sur la bonne voie. Est-ce que ce qu'ils font est magnifique?
T'as pas
oui,
entendu l'argument de Christophe quant à la jeunesse géants. Du pays du
mais, PSG. Mais, c'est ça que t'entends pas. C'est ça que t'entends pas.
Non, mais quel rapport?
Ben, c'est un jeune club mais qui est en train de monter et qui gagne.
Oui. Donc c'est un grand club. C'est pas un club.
Non, mais non, à ce moment-là,
l'histoire fait que malheureusement tu peux pas.
À ce moment-là, il ne faudrait que comptabiliser la nouvelle formule de la Ligue des Champions et voir que le Paris Saint-Germain se situerait plus haut. Parce que là, on englobe également la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est toutes les versions de la Ligue des Champions, de l'ancienne Coupe d'Europe des clubs champions, où bien sûr, ben, le Real culmine à 14. L'AC Milan, c'est 6. 7 ou 6.
Attends, c'est Milan.
7, et ensuite Barcelone et Liverpool. Mais malgré tout, le Paris Saint-Germain, version contemporaine,
est un
géant d'Europe.
Non, mais je sais que par exemple Christophe est très attaché à l'époque de Cruyff et de l'Ajax. L'Ajax qui a 3 Ligues des Champions, qui est une équipe qui a marqué une époque. C'est une équipe qui est venue à la table des géants, justement. L'Ajax est devenue une équipe qui représente
oui,
une
mais
génération.
Pour des finales aussi.
Non, mais est-ce que le PSG est de ce niveau-là, tu penses, aujourd'hui?
L'Ajax, c'est 3 victoires d'affilée quand même. Donc c'est back to back to back.
C'est flippant.
Donc et puis c'est des joueurs qui sont devenus mythiques. L'Ajax est associé à l'équipe de Hollande qui était en finale de la Coupe du Monde 74. Pour moi, c'est une équipe de géants parce que c'est l'équipe.
Je comprends ton hésitation parce que c'est notre jeunesse en fait.
Ouais, c'est ça
aussi.
Ils n'ont pas réussi à maintenir ce niveau-là sur la longueur parce que c'est un petit championnat, parce qu'ils ont beaucoup moins d'argent que tous les autres grands clubs. Mais pour moi, ça reste un géant. Ce maillot incroyable, ces stars incroyables. Mais ils sont plus invités.
Non, mais c'est comme on s'est posé la question il y a une semaine en rugby, l'UBB. À quel moment tu deviens un géant européen par rapport à d'autres clubs?
Mais quand t'as plus de 2 titres.
Alors que c'est une équipe avec une jeune histoire aussi.
Bien sûr, ils sont en train de construire. Et comme disait Pascal, dans ce football nouvelle génération, vous citez des grands clubs, mais ça parle aux amoureux du football. Oui, mais moi qui me remets à aimer le football, ça les rend parmi les géants. Football moderne, contemporain, tout ce que vous voulez, ça fait partie des géants.
Regardez, aujourd'hui, c'est très simple, hein, mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est respecté partout, en termes d'institutions. La voix du PSG compte aujourd'hui, celle de Nasser Al-Khelaifi, parce qu'il a aussi été habile pour rentrer dans les institutions avec les décisions. Aussi, quand vous regardez dans le monde entier, la marque PSG, enfin, moi, je peux vous le dire, je suis parti en 2018 en Argentine, le PSG, ça représentait encore quelque chose, mais pas grand chose. Aujourd'hui, on voit des maillots du PSG dans tous les pays du monde. Pendant la Coupe du Monde des clubs, je peux vous dire, aux États-Unis l'année dernière, il y avait des supporters parisiens partout, parce qu'il s'est construit aussi avec l'époque de Neymar, de Messi et tout ça, mais maintenant ça se construit de par les succès, de par le fait que cette équipe est sympathique et a créé quelque chose. Ils ont marqué une époque, ils ont marqué une génération, ils marquent le moment du foot en ce moment.
Ils marquent le moment, et le moment, c'est pas suffisant pour moi pour être
faire partie des gens. On verra, c'est peut-être l'histoire qui nous dira s'ils ont réussi à s'installer.
Ils s'installeront, je dis, je suis pas en train de dire.
Je pense aujourd'hui, Fred, que les jeunes joueurs rêvent de jouer au Paris Saint-Germain. C'était moins le cas avant. Les jeunes joueurs du monde entier.
Mais parce que c'est l'époque et c'est parce qu'ils viennent de gagner 2 titres aussi. Mais il faut pas d'un seul coup, sous prétexte qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, oublier ce qui se passe avant.
Non, bien sûr. Mais personne n'oublie. On te dit, est-ce qu'ils viennent à la table des grands?
Des géants. Oui, c'est pas pareil. Et donc, 3 finales. Ils n'ont joué que 3 finales de Ligue des Champions.
Ouais, vous avez 2 victoires.
Bah oui, je connaissais les 3 petits cochons, mais les 3 géants, j'ai toujours pas compris.
Tiens,
j'expliquerai après.
Au 32-16, on a Samir qui est avec nous. Salut Samir.
Salut les GG, ça va?
Bah ça va, et toi supporter parisien, je crois que t'es sur le retour, c'est ça de la finale?
Exactement, hey, on est parti à Budapest en Tesla. Et on rentre en Tesla.
Ah bah ça tient du coup.
Donc quelques arrêts, mais ça va, c'est cool. On est parti avec mon pote là, Arnaud, qui est conducteur de métro sur la ligne 7.
Ah oui,
et je fais un coucou, et je fais un coucou à Léo de la ligne 7 et à Ousmane.
Ah bah ouais, écoute, bah c'est passé. Je savais pas qu'Ousmane Dembélé était conducteur de sur la ligne 7.
Incroyable.
Ah, Jussieu, très bien. Non mais alors Samir, bah, raconte-nous Samir ce que t'as vécu, parce que là tu
alors, dis une ambiance incroyable. J'écoute un peu ce qui se dit un peu à la télé et vraiment c'était un moment de communion
à la radio, non,
entre les supporters. Ouais, à la radio hier, j'écoutais RMC déjà direct quand je suis sorti du stade. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après j'ai regardé un peu ce qui se disait sur les informations et tout. Franchement, ça a été un moment du début à la fin, de l'avant, pendant et après, un moment de communion entre tous les supporters. Pas de violence, de la joie, bien sûr, un peu de crainte et de peur en match. Mais à la fin, ça y est, on est heureux.
Ouais, alors Samir, justement, dis-moi ce matin, et après l'épopée que vous avez encore vécue en Ligue des Champions, vous êtes allé à Munich, dans l'antre du Bayern, vous avez gagné, vous avez affronté Arsenal hier, qui est aussi quand même une institution européenne, vous gagnez. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes respecté comme une grande équipe maintenant en Europe, comme un géant?
Exactement, c'est ce que j'entends, ce qui se dit un peu sur le plateau et tout depuis tout à l'heure. Bien sûr, on est des géants. Jusqu'à quand on va dire oui, il en faut 3, il en faut 4, la jeunesse. Bien sûr, la jeunesse du club. Mais si ça avait été un autre sport ou une autre équipe en France, on aurait dit, waouh, regardez ce qu'ils font, c'est incroyable, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est l'effort d'un collectif. Je disais juste avant là, que vous me preniez, vous parliez de, à l'époque, Messi, Mbappé, Neymar et tout. Bien sûr, il y avait des grands noms, mais là, le collectif, il a fait, c'est la force d'un collectif. Le groupe a fait qu'aujourd'hui, ils portent Paris là où ils sont aujourd'hui. Mais ils respectent aussi les précédents joueurs qui ont joué pour Paris. Aujourd'hui, oui, c'est des géants. C'est des géants, ils vont peut-être aller plus loin ou pas. Mais on devrait les respecter parce qu'ils font rayonner le monde.
Ouais, mais t'as raison, Samir, aussi, que justement.
Il y avait des Croates, il y avait de partout, il y avait tout. J'étais choqué.
Supporter du Paris Saint-Germain? Ah ouais?
Ouais. Ils viennent de Montpellier. Il y avait des gens de partout. Il y avait des gens de partout hier. On parlait avec eux dans les tribunes. Ils parlent anglais. Et en fait, ils étaient venus de partout dans le monde pour. Il y avait des Brésiliens, mais il y avait du monde.
Vraiment. Ouais, mais c'est voilà, il y a des supporters dans le monde entier aujourd'hui. Samir, tu le disais un petit peu aussi. Je pense que ce qui est important, les gars, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est aussi que le PSG depuis quelques années, parce qu'on a parlé de ce que fait bien Luis Enrique aussi, mais reconnaît un peu plus son histoire aussi et ses anciens joueurs un peu plus célébrés. On a vu, il y avait plein d'anciens qui étaient là, qui étaient là-bas, des anciens qui ont même connu des moments un peu plus difficiles.
Oui, mais regarde aussi
l'ère
Messi et autres a amené le PSG dans une autre dimension. Ils ont vu que ça ne suffisait pas pour gagner, mais ça a fait connaître sur la planète football le PSG un peu plus. Maintenant, avec Luis Enrique et les titres, ça les place parmi les géants. Oui. C'est exactement ça.
Ça les place toujours pas parmi les géants. En fait, c'est un épiphénomène.
Il faudrait
se poser la question de se dire si
Manchester City avait gagné 2 Ligues des Champions avec Pep Guardiola, est-ce que ce serait un géant?
Non. Mais pas plus. Mais alors, de la même manière. En fait, la définition des géants, c'est sur la longueur. C'est le fait de participer à plein de finales.
Non. Mais la Juve va pas participer à 50 finales de Ligue des Champions, par exemple.
Ils ont fait.
La Juve, c'est un géant européen?
Non.
Je comprends pas tes critères.
Non.
Mais non, pour moi, il y a 3 géants européens.
Tu es dans une posture du non.
Non, mais je suis dans la posture de. En fait, tout le monde n'est pas un géant.
Tu cherches la bagarre.
En fait, c'est comme si.
Mais c'est quoi, du coup, en NBA, c'est les Celtics, les Lakers?
Bien sûr, c'est les deux géants.
Et les autres, c'est les gamins, quoi.
Non, pas tout à fait, parce qu'il y a aussi Chicago qui en est 6. En deux fois, tu
oublies. Limoges, c'est un géant?
Ben non, justement, c'est la question. C'est pas un géant au niveau européen. On a gagné une fois.
Et le seul géant Limoges, en fait.
Il y en a eu plein qui sont passés, mais est-ce que je veux dire? La question, c'est de savoir. Si le PSG arrêtait de gagner maintenant et que la saison et la carrière du PSG s'arrêtaient maintenant, est-ce que ça serait un géant? Ben non, parce que deux titres, ça serait pas
si ils en gagnent une troisième consécutive, tu diras toujours non.
Non, je changerai d'avis.
Non, mais vous savez quoi? Là, moi, je te tords le cou parce que tu me dis, c'est pas dans les trois. Tu me parles donc du Real, tu me parles de l'AC Milan.
Oui, mais
tu me parles du Bayern.
Je dirais qu'il sera. Je dirais qu'il se rapproche des géants, tout simplement parce qu'un tripit peut l'en faire.
Je te mets sur mes épaules pour en valer du temps le coup.
Est-ce que c'est un géant du football français, le Paris Saint-Germain?
Ah, ça oui, quand même.
Ben, bien sûr.
Ah, bon, quand même. Non, parce que je me demandais jusqu'à quel point t'allais être dans le.
Juste une question, ils ont gagné deux fois champion de France?
Deux fois championnat de France.
Non, c'est une question. Est-ce qu'ils ont gagné deux fois championnat de France?
Ils ont gagné plus.
C'est peut-être pour ça qu'ils sont chez les géants, alors.
Je remercie Samir au 32-16.
T'arrives à réfléchir et.
Moi, je dis la vérité.
Non, c'est ça le problème, c'est qu'il arrive peu souvent à réfléchir.
Mais toi, tu sais pas lire.
Ah, voilà, ça y est. Merci Samir au 32-16. Tiens, Luis Enrique, il rêve déjà d'une troisième étoile?
C'est clair que des objectifs à préparer, on a les temps. C'est le moment des les vacances, d'arriver à l'été. L'année dernière, on avait marqué l'histoire. On avait joué le Mondial des clubs et ça a été très difficile et très dur. Dans ce moment, la majorité des joueurs, ils vont aller avec l'Air National et c'est une compétition de très haut niveau. Mais pour nous, en tant que staff, on va profiter cet été. Clairement, il y aura des moments pour parler de les back-to-back-to-back, a dit Luis Campos. Et on est content d'avoir des objectifs à la hauteur de non supporters à l'hôtel de cette club et à l'hôtel de la ville.
Ah ben là, effectivement. Bon, peut-être au début une dynastie pour le PSG. Hein. Vous y croyez, vous, rapidement, oui ou non? Oui ou non? Vous croyez à une dynastie PSG?
Oui.
Donc plus qu'un deuxième titre. Ouais. Cédric aussi, Fred?
Oui, j'y crois.
Il va falloir un tout petit peu recruter intelligemment deux ou trois joueurs qui vont vraiment compléter le truc.
Il va falloir
et je pense qu'ils peuvent s'inscrire dans la durée.
On en parlera en antenne, mais moi je serais curieux de savoir comment on gérera à l'avenir les héros du Paris Saint-Germain. Ça va être dur de s'en séparer parfois, donc ce sera ça qui sera à gérer. Oui, Marquinhos, effectivement. Et bon, il est toujours là hein, pour l'instant. Il va pouvoir se reposer, Luis Enrique. C'est vrai qu'il n'a pas eu d'été l'année dernière.
Belle vacances.
Là, je pense que si on est journaliste, il ne faut pas le croiser.
Il a dit ça l'année
dernière. Après la Coupe du Monde des clubs l'année dernière, il m'avait dit cet été, il ne faut pas que je croise un journaliste. Il a dit, mais t'inquiète, j'ai pas envie de te croiser non plus. Allez, à tout de suite, on parle de Roland Garros sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, dans un instant, les jeux du sport. On va voir qui va avoir le meilleur mental aujourd'hui. Mais d'abord, Roland Garros, il y aura bien un représentant français en deuxième semaine. Une représentante.
RMC, les GG sur le buzzer.
Allez. Anne Simova, petit slide de revers de Diane Parry. Elle a compris que le slide de revers, ça pourrit la vie d'Anne Simova qui sait pas quoi faire.
Amortie de Diane Parry, elle ne peut pas aller dessus si le passing là, c'est fait! Bravo Diane! Elle est en huitième de Roland en battant Anne Simova en trois manches. Superbe perf! Eh oui, superbe perf, Eric Salio et Florent Serra au commentaire. La sensation s'appelle donc Diane Parry, elle a 23 ans, elle a dominé donc hier l'américaine Anisimova, Simova, sixième mondiale, elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale, c'est la première fois qu'elle atteint ce niveau dans sa carrière en grand chelem. La niçoise affrontera demain la polonaise issue des qualifs, Maja Jwalinska, 114e à la WTA, et pour la première fois à ce stade de la compétition aussi, son tableau s'est ouvert puisque la gagnante sortante Coco Gauff a été battue hier, elle est notre seul espoir bleu. Les GG. Et je vous pose la question, est-ce que Diane Parry sauve le Roland-Garros des Français? Pascal Duprat. Une grande réflexion.
Oui.
Cédric Emmons.
Non.
En grande réflexion lui aussi. Christophe Cessieux.
Oui, mais pas toute seule, avec Moïse.
Ah oui, c'est ton pote maintenant, Moïse.
Ah oui, j'adore.
Ouais. Fred Weiss.
Non.
Notre grande gueule. Denis
Mister No.
Bah oui, bien sûr. Hein. Ça va dire autre chose
c'est
que
le
oui.
Nouveau, c'est le nouveau crew de chef.
Il faudrait faire, avec Fred, il faudrait faire un ninon. Il perdrait tout de suite. Notre GG Tennis, Sarah Pitkowski, nous rejoint. Salut, Sarah.
Bonjour à tous. Bonjour, les GG.
Ça va, Sarah?
Écoute, ça va.
Il y aura une Française en deuxième semaine?
Encore.
C'est super, oui, comme vous
l'avez dit l'année dernière. Supporter parisien, hier soir.
Ouais. Vive le tennis féminin français.
Heureusement. Ça, comme Loïs l'année dernière. Alors, Diane Parry, est-ce qu'elle sauve le Roland Garros des Français? Toi, tu dis.
Je dis oui, bien sûr. Oui. Parce
pourquoi?
Que d'avoir un Français ou une Française en deuxième semaine de Grand Chelem, c'était pas gagné d'avance parce qu'on a quand même peu de joueurs, peu de joueuses. Déjà, on n'a pas de Françaises tête de série, donc déjà, on n'est pas protégé au tirage. Chez les Français, on en a peu aussi. Chez les hommes, là, il faudrait faire appel à Eric Salio, mais le nombre de tournois du Grand Chelem sans Français en deuxième semaine se compte sur les doigts de deux mains. Facile maintenant en termes d'édition. Donc oui, elle sauve parce que déjà parce que ici même, il y a 10 jours, on avait fait les débats sur le fait est-ce que ce Roland-Garros sera intéressant, sachant qu'on n'a pas de Carlos Alcaraz et on pensait qu'Yannick Sinner serait l'attraction seule et unique de ce tournoi. Et chez les filles, on sait que le tournoi féminin, il est toujours un petit peu en dessous, quoi. Donc oui, aujourd'hui, elle sauve le tournoi de Roland-Garros pour les Français et ça lui donne un intérêt parce que. Oh, maintenant, je vous le dirai après.
Ah oh bah tiens, bah c'est incroyable,
non,
ça
arrête comme
ça.
Non, non, non,
mais là, dans le tennis,
tu,
on en est là dans le tennis.
Ça lui donne intérêt. Tu vas le vendre des popées, je sens.
Oui, c'est ça, parce qu'elle a encore un tour qui est totalement jouable contre la polonaise qui est sortie des qualifs.
Alors, on en est là dans le tennis français à se contenter d'avoir des.
Mais bien sûr,
oui,
homme,
oui, mais
femme,
mais
toi, t'as tout gagné, évidemment.
Mais non, mais c'est pas ça, c'est que c'est.
Mais quand t'as quatre joueuses, quand tu n'as que quatre joueuses. Avec le classement requis pour rentrer directement dans un tournoi du Grand Chelem, tes chances, elles sont différentes. Je vais juste vous donner une comparaison. Alors, c'est toujours, on ne va pas dire que c'était mieux avant, mais quand je joue mon premier Roland en 93, on était 19 Françaises.
Qu'est-ce qui s'est passé
depuis 19 Françaises dans le tableau final. Là, on avait 4 Françaises plus 6 wildcards. Donc, 6 wildcards, des joueuses
déjà,
qui n'ont même pas le classement requis pour jouer les qualifs qu'on upgrade dans le tableau. Donc en fait, oui, il y a un affaissement du niveau global du tennis féminin français. Après, si vous me demandez pourquoi, je pense que c'est multifactoriel. Pourquoi on pourrait faire mieux, probablement. Mais oui, d'avoir que 4 Françaises dans le top 100. Et alors, attendez, dans quoi à l'approche du début août, on en aura plus que 2. Et encore, si Elsa Jacquemot sauve ses points, il est possible qu'à l'US Open, on n'ait qu'une joueuse dans le top 100 qui s'appelle Diane Paris.
Mais attendez, là, on a l'impression que tout est mal alors qu'on a une Française en 8e de finale de Roland Garros.
Mais parce que
tout est mal. Tout est mal par rapport au nombre de licenciés français. La Fédération française de tennis engrange un nombre de licenciés de plus en plus impressionnant. C'est l'une des fédérations les plus riches au monde. Effectivement,
il faut jamais se contenter.
Avec toutes ces qualités, tu devrais avoir plus que ça. Ça, c'est sûr. Donc, est-ce à dire que la Fédé bosse mal? Est-ce à dire que les formateurs bossent mal en France? J'en sais rien. C'est Sarah qui
est.
Mais n'empêche, il y a quand même un problème.
On parle pas que des filles, on parle des filles et des garçons.
Non, bien sûr.
Est-ce que les garçons sont sous-performés peut-être?
Tu n'es pas une usine à champion au niveau du tennis.
Ah non, c'est quoi qu'on puisse dire?
Après, les
gars, moi j'ai une question pour Sarah. Sarah, comment tu expliques que. Oui, tu nous expliques qu'on n'a pas de tête de série, etc. Sauf que toutes les sept têtes de série
sont
en train de tomber, qu'on a des joueurs qui viennent un peu de nulle part qui performent et que nous, chez les Français, on ne performe pas. C'est-à-dire que les lucky losers qui arrivent, qui ont des white cards,
c'est les autres,
mais c'est jamais nous. Tu peux m'expliquer
je sais pas comment.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire que ça soit réussi.
Il faut considérer que le tennis est certainement un des sports les plus concurrentiels en termes de nationalité représentée.
Mais
les autres s'en sortent pas.
En ligne de compte, c'est un truc sensé ce que je suis en train de dire. Toi, Fred, là, ça fait du bien quand même.
Et ce que je veux dire, c'est sensé aussi. On a des lucky losers. En fait, Pascal, tu m'as. En fait, il y en a qui savent pas lire, il y en a qui écoutent pas. En fait, Pascal, écoute ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que, comme par hasard, les lucky losers, les mecs qui ont des white cards, jamais chez nous.
Est-ce que tu avais entendu parler de Kwame avant? Christophe vient de le dire, ce gamin, il est incroyable.
Non, on avait entendu parler justement parce qu'il est en train de faire.
Je trouve qu'on a une Française qui va en deuxième semaine alors que nous sommes pauvres en qualité pour ce qui est du tennis féminin. Et notre numéro 1, Arthur Fils, il est forfait. Moi, je trouve ça génial.
Bravo à la
deuxième semaine, je suis très content parce que je vais suivre le tennis féminin. Et je vais l'encourager. Donc en plus qu'elle a une chance complète.
Attention, je m'en attends, s'il vous plaît.
Christophe?
Non, non, je sais plus ce que je voulais dire, parce que, avec Fred qui coupe tout le monde à la serpe, moi, j'ose plus parler, quoi. Qu'est-ce qu'il va me dire? Non, c'est pas de bol avec Arthur Fils, parce que Arthur Fils, pendant tout le printemps, on s'est dit, c'est avec lui qu'on va vivre Roland Garros. Le mec, il se pète juste avant le début du tournoi. Il a été remplacé momentanément par ce jeune Moïse Kwame, qui lui a fait s'emballer tout le Langlen pendant ces deux matchs et qui te donne l'envie d'y croire. Ce garçon a 17 ans, Diane Paris elle a 23 ans, Boisson pareil, Arthur Fils 21 ans. Il y a quand même une petite base qui te permet de croire
en
des jours meilleurs, quoi.
Il y a un petit truc.
Par définition, dans ce que tu viens de dire, c'est que justement, oui, on peut imaginer que dans le futur ce soit mieux, on peut l'imaginer, mais on ne peut pas considérer que ça soit un bon
Roland Garros.
On ne peut pas dire grâce à Paris que d'un seul coup, tout va bien. Donc c'est faux.
Il y a un petit frémissement.
Hormis le forfait du joueur français qui pouvait aller le plus loin,
Arthur Fils.
Il y en avait d'autres. Ils sont passés où?
Non, les autres, ils sont pas.
Ils sont pas 30, du moins.
Corentin Moutet était tête de série, là, il est sorti au premier tour.
Voilà.
Oui.
Hugo Humbert, pareil.
En deuxième tour. Humbert, deuxième.
Et là où je rejoins Fred, c'est que les autres nations, ils y arrivent. Et nous, sur ça.
Alors attention, les autres nations, on va pas s'emballer non plus. Hein.
Non, mais là, t'as une chance inouïe. C'est-à-dire que les têtes de série, ça tombe de partout. Tu peux avoir un super Roland Garros français, ça passe pas, quoi.
Oui, mais parce que dans le haut du tableau, on avait peu de Français. Aujourd'hui, le pays avec qui on peut se comparer et on cherche à comprendre pourquoi eux y arrivent plus que nous, c'est les Italiens. Parce que les Italiens, ils ont déjà envoyé des vainqueurs de Grand Chelem, notamment Francesca Schiavone qui a gagné Roland-Garros. On a eu des Justine Paolini qui était en finale. Et aujourd'hui, Sinner est sorti.
Ils en ont trois ou quatre.
Mais il y a encore trois Italiens qui sont en course, en fait. Et c'est un plus petit pays.
Mais alors, comment ils ont fait pour avoir une telle densité de bons joueurs? Avant, il y avait l'Espagne aussi, c'était la même chose.
Oui, absolument. Il y a toujours l'Espagne.
Il y a toujours l'Espagne, mais l'Espagne-Italie, qui sont nos deux voisins du sud de l'Europe, avec des densités de population à peu près.
Et qui n'ont pas,
identiques.
Eux, le financement d'un grand chelem qui irrigue finalement tout un centre de formation. J'essaie de chercher, me dire pourquoi on n'y arrive pas plus.
Peut-être qu'ils sont envoyés en Roland-Garros en Italie, et peut-être qu'ils seront moins bons, et nous,
Tu ne peux pas attaquer directement la fédération, les entraîneurs ou le manque de joueurs ou de joueuses.
Le mari de Sarah est entraîneur national. Hein.
Mais donc c'est compliqué, si ce n'est que chez les filles, on a du mal à avoir des petites filles qui jouent au tennis et qui continuent à jouer au tennis. Mais est-ce que c'est que le tennis, ou est-ce que c'est dans l'air du temps? C'est un sport qui est difficile.
D'accord.
C'est un sport qui est difficile, qui est extrêmement bien rémunéré aujourd'hui. Mais quand ça devient trop difficile, est-ce que finalement on cherche pas des portes de sortie et on passe à autre chose? Donc voilà. Mais on s'est quand même écarté de Diane Paris.
Diane Paris sur peut-être le Roland Garros des Français. Non, mais justement, est-ce que toi tu crois à l'épopée de Diane Paris? Est-ce que Diane Paris peut faire comme Loïse Boisson l'année dernière?
Diane Paris a le tableau pour effectivement faire une Loïse Boisson. Alors déjà, c'est une joueuse qui est en forme. Il faut savoir qu'elle a gagné le tournoi juste de préparation de Roland-Garros qui se trouve au Lagardère, qui est juste de l'autre côté du bois, où elle remporte ce tournoi, elle gagne 5 matchs d'affilée sur terre battue. C'est important de gagner des matchs, d'avoir confiance.
Même s'il y a eu des abandons, effectivement.
En finale, il y a eu des Madison abandons. Keys. Mais c'est une joueuse, Diane Paris, qui a un tennis qui ressemble vraiment à la culture française.
Revers à une main, j'adore ça,
Elle a une jolie technique, on sent qu'elle a un jeu en construction, et elle a un coach qui s'appelle Thomas Hochstedt, qui est un Suédois, et Thomas Hochstedt, il est connu pour développer un jeu agressif, mais aussi dans la tactique. Il a fait évoluer des joueuses qui étaient quand même très stéréotypées, je vais vous en citer une, c'est Maria Sharapova. Et Maria Sharapova, kikiner un peu de l'avoir frappé comme une mule sans réflexion, ou en tout cas de le jouer vraiment en étant très monolithique, il lui a apporté un sens du jeu. Thomas Hochstedt travaille avec Diane depuis un an. Elle a le jeu, le fond de jeu qui est déjà comme ça. Et donc, il est en train de la faire évoluer. Elle était déjà dans le top 50 fin 2024. Elle a eu des blessures en 2025. Et là, elle reprend son envol. Et ce tour face à Schwalinska, bah, c'est une super opportunité. Et ce que j'ai aimé face à Anisimova,
parce que finale, elle est issue des qualifs. Hein,
oui, donc la favorite, là, elle rentre sur le court en étant favorite. Ce qui n'est pas la même posture que quand tu joues Anisimova, qui est sixième mondiale. Elle a réussi vraiment à garder son sang-froid. Donc j'espère que cette mentalité, elle va réussir à la garder, parce que la pression, elle va être sur ses épaules. C'est sûr. Donc il va falloir jouer avec ça.
Je pense qu'elle va pas craquer sous cette pression, parce que c'est vrai qu'on parle de Roland Garros toujours, qui met la pression sur les Français.
Tu sais quoi, elle a joué deux matchs sur le central, elle s'en est sortie comme une reine.
Dans un match où elle était menée 6-0 au premier set.
Pas dans la même posture.
Oui, mais Schwalinska, là, elle a jamais mis les pieds sur le central. D'accord. Et je peux te dire, tu peux aussi en parler à Fonseca, quand tu rentres sur le central, il y a un moment d'adaptation. Et Jao Fonseca, il perd les deux sets, et notamment le premier set face à Djokovic, où tes repères sont pas totalement identiques. Donc elle a un avantage. Elle va avoir le public, elle va avoir ce cours. Maintenant, il va falloir tenir.
Ben voilà, on a envie d'y croire. Ouais, franchement, à l'épopée de Diane Sarri.
Je joue à la française et quand on joue à la française à Roland-Garros.
Oh là là, mais toi, tu jouais comment? Toi, t'étais un américain, toi?
Je fais du basket.
Non, c'est pas un américain. Non, mais ça vous fait rêver, là, Diane Sarri. On commence à raccrocher son histoire.
J'ai bu ses paroles. Moi, j'ai bu ses paroles parce que t'aimes ton sport.
Tu l'as bien regardé, au moins.
Franchement, tu l'as bien vendu.
Qui balance sur tout.
Tu l'as super bien teasé, aussi bien que Fred.
Rien ne trouve grâce à ses yeux, mais à part le basket.
Mais moi, je demande que ça. J'adore le tennis, je suis un grand fan et tout le monde le sait. Mais j'aimerais bien
comprendre. Je vais vous poser la question d'ailleurs, est-ce que vous pensez que, comme Loïs Boisson a fait une épopée l'année dernière, elle a fait une demi-finale, on rappelle, est-ce que ça sert quand on est joueur français, joueur français en se disant quelqu'un l'a fait, je peux le faire.
Bah exactement, parce que c'est comme le fameux plafond de verre. Tu te dis, il y a un sportif qui l'a fait, pourquoi ça serait pas moi?
Diane Parry,
mais ça existe vraiment, ça, on s'alimente de l'autre.
Mais tu sais que c'est possible, tu sais que tu es capable d'eux. Et tu dis, mais moi aussi j'ai le droit d'écrire mon histoire, moi aussi j'ai le droit d'aller chercher ce rêve-là. Moi aussi, je suis capable de casser mon plafond de verre parce que les autres l'ont fait.
Et elle vient de moins loin que Loïs Boisson. Diane Parry était la meilleure joueuse mondiale chez les juniors.
Oui,
en 2019, je veux dire, elle était considérée comme un immense talent en devenir. Elle a eu du mal à s'acclimater au professionnalisme. Elle a eu pas mal de difficultés. Et peut-être qu'elle est à maturité un peu plus tardive que les autres.
En tout cas,
elle n'est pas vieille, elle a 23 ans.
Oui, mais on l'a souvent... On l'a souvent expérimenté en France, les meilleures joueuses, même de notre histoire, des 20 dernières années, il fallait une certaine maturité. Quand on parlait de Julia Lard, de Nathalie Tauziat, de Marie Pierce, même d'Amélie Mauresmo, on est arrivé avec une forme de maturité. On n'a jamais fait, chez les filles, on n'a jamais eu des records de précocité. Voilà. Grosso modo, on n'a jamais été une Martina Hingis à 16 ans à être dans le tableau final et
Alizé, elle jouait à 16 ans face à Amélie Mauresmo.
Alizé a été une des plus précoces à rentrer dans le tableau. Et c'est pour ça qu'elle a eu une carrière très longue. Mais on n'a jamais eu des grands records de précocité. C'est avec la maturité que c'est comme le bon vin, quoi, chez nous. Voilà.
Donc c'est une construction française normale.
T'as encore une chance alors.
Oui, alors moi je crois que j'ai. Oui, non, le train est passé.
Oui, exactement. Voilà, donc pour Diane Parry, que l'on retrouvera demain, évidemment, à Roland-Garros. Tiens, le programme du jour, je vous le donne. Zverev de Jong sur le Châtrier, c'est le troisième match. Rude Fonseca ce soir en night session.
Ça va être chaud.
Tiens, je peux vous donner Jodar face à Carreno Busta, un classico espagnol, et puis Rublev face à Mensik. Voilà les noms désormais que l'on cite quand on parle de ce Roland-Garros où les favoris ont pris la porte. Sarah, tu restes avec nous. Fred Weiss, ça a été trop dissipé aujourd'hui. Je l'exclus des jeux du sport.
Au revoir, merci beaucoup.
Salut Fred.
Tu me donnes tes notes pour les jeux ou pas?
J'ai jamais de notes.
On l'avait remarqué.
Il n'y a jamais de notes, il n'y a jamais de victoire non plus.
Allez, tout de suite les jeux du sport. Restez avec nous sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
C'est une folie, les gars. C'est incroyable, on en peut plus, on est plus vert, on est en plus fort.
Les grandes gueules du sport.
C'était dingue. J'en peux plus, je sais pas quoi vous dire. Là, c'était abominable. C'est abominable, ça en est survécu en finale. C'est exceptionnel. Là, il y a une joie dans la tribune, c'est exceptionnel.
Georges Quilineau.
Et vous avez peut-être reconnu la voix de Pierre Dorian, le présentateur du Super Moscato Show, en folie à Budapest pour le nouveau sacre parisien face à Arsenal au tir au but. Ils sont dans le contrôle des émotions, Pierrot, hein, jamais dans l'euphorie, surtout quand il s'agit du Paris Saint-Germain. Évidemment, vous venez tout au long de la journée célébrer ce titre. On va suivre les célébrations tout au long de la journée, bien sûr, à 14h, avec le Champ de Mars qui va s'ouvrir pour accueillir les Parisiens qui sont en train de rejoindre Paris, ensuite la réception à l'Elysée et la grande fête ce soir au Parc des Princes avec Jean-Louis Tour et Valentin Jamin dès 20h qui seront aux commentaires de cette soirée. Tout de suite les jeux-jeux.
RMC, les jeux-jeux du sport.
C'est du 2 contre 2 et vous défendez un auditeur. Répartition des équipes. Pascal Duprat qui a gagné hier avec Cédric Emmons.
Les hanches. Les mêmes côtés. Voilà.
La vieille hanche.
Toi, c'est la droite, moi, la gauche, on va tourner en rond.
Voilà. On est sur une team sans hanche.
Et sans beaucoup de cheveux.
Ah, ouais. Ah oui, j'avais
Barre des cheveux, on peut faire.
Oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de renoncement, hein, non plus.
Vous avez envie de. Résilience.
Acceptation.
Et donc, Sarah et Christophe.
Moi, Christophe.
Pour la team qui est à RMC.
Tu lâches rien.
Pour la team qui est à RMC depuis 1950.
Ça fait plaisir de plus avoir Fred Weiss.
C'est une
c'est un bien fou.
On l'embrasse. Question impossible activée par un seul joueur par émission. Il est le seul à jouer. Une bonne réponse, c'est 3 points. Une mauvaise réponse, c'est 1 point en moins. J'accueille les auditeurs. Quentin et Simon. Bonjour, messieurs.
Salut.
Quentin, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Cessieux, Pitkowski ou Duprat et Mans.
Allez, Cessieux, Pitkowski.
Cessieux, Pitkowski. Donc, tu as envie d'avoir peur jusqu'au bout avec Christophe. Déjà, il se sent agressé.
Oui, tout de suite.
Je rappelle le cadeau à gagner. Une enceinte portable Tamo de Lexon. Non, c'est aujourd'hui, Chris. C'est aujourd'hui. Comme Luis Enrique, le mental jusqu'à la fin. Allez, question à une seule réponse, les GG. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Question à une seule réponse. Cessieux Pitco contre Duprat et Mans. Ce matin, qui est troisième du top 14
Stade français.
Montpellier.
Stade français. Elle est dans ton équipe. Ouais, ouais.
Bravo ça, c'est bien sûr.
Bravo ça, mais ça elle a bossé. Hein. Je voulais dire, avec ça fait deux jours qu'on lui a dit tu vas rester pour les jeux du sport. Elle ne dort plus. Ah, voilà. Bon, 11h50. J'ai pas de stylo. Traditionnel. Ah. On enchaîne. Question à plusieurs réponses. Wemby a qualifié les Spurs en finale NBA. À quelle année remonte la dernière finale de la franchise?
2014.
Sarah Pitkowski. 2-0. Ah, bah. 2-0 pour l'équipe Cessieux.
Résilience.
Ça va les hanches?
Résilience.
On se l'a dit, on tourne en rond.
On va vous faire des t-shirts.
Ah oui.
La résilience. Très bon. Je suis très fier de moi. Question auditeur. C'est pour vous, Quentin et Simon. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom.
Ça y est, c'est parti.
Où s'est joué Quentin et Simon la finale de la Ligue des Champions?
Budapest, Quentin.
Quentin, 3-0 pour l'équipe.
Même là,
c'est sûr. Même là.
Tu t'es pas fait opérer du linge, toi aussi.
Question à une seule réponse, les GG, une seule réponse. Vingegaard va aujourd'hui rentrer dans la caste fermée des vainqueurs des trois grands tours. Qui est le dernier à l'avoir réussi?
Pogacar.
Nibali. Non.
Froome.
Mais c'est une seule réponse.
C'est une seule réponse.
Froome.
Froome. C'est vrai qu'il
mange.
Eh oui, mais tu te fais avoir à chaque fois. 3.
On n'est pas fanny.
Allez.
Question.
Il est content.
Pascal est en train de jouer là.
Il est content parce
sur le mental de Christophe.
Parce qu'il a eu Christophe.
En lui hurlant silencieusement, ce qui est un concept, au visage. Le cri silencieux, très beau concept inventé par Pascal. Question.
Hugo de Montserrat, il sera avec moi.
3. Question à plusieurs réponses. Qui a dit ceci? On a mérité aujourd'hui car le PSG était le seul à vouloir jouer. Non.
Marquinhos.
On était la seule équipe à vouloir jouer la finale. Un joueur a dit ça. Non. On a mérité aujourd'hui de gagner car le PSG a été la seule équipe à vouloir jouer.
Dembélé.
Un joueur du PSG. Non, c'est pas Dembélé.
Vitinha.
Barcola. Non.
Barcola.
Non.
Barra.
Louis.
On l'a dit tout à l'heure. Neves. Qui a dit Neves? Pascal.
Ah, moi j'ai dit Mendes, pardon. Je me suis trompé. Bien, Pascal. Continue ton cri silencieux, Pascal. Ça y est. Tu sais quoi? Tu lui es rentré, t'as fait du Noël, Enrique, tu es rentré dans le cerveau.
Il lui envoie le. Je ne suis plus du tout concerné par ça.
Trois noms pour l'équipe, c'est
on y va, hein.
Georges a réussi à me dégoûter en quelques mois. Donc là.
Allez, on enchaîne.
Question. On est en équipe, là.
Question auditeur pour vous, Quentin et Simon. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Combien de Français sont encore en lice dans le tableau masculin à Roland-Garros?
0, Quentin.
Bravo, Quentin. 4
Simon, tu dors?
Simon.
Allez, allez-y, fait toujours effet.
Question à élimination pour 2 points. Donc la team résilience, vous pouvez revenir à égalité. Vous répondez à tour de rôle, une erreur et vous êtes éliminé. Citez-moi, s'il vous plaît, les GG, tous les clubs ayant remporté la Ligue des Champions au moins 2 fois.
Alors,
Pascal.
Chelsea,
c'est bon. Sarah.
Moi, je vais vous dire le Real.
Real Madrid, c'est bon. Cédric.
PSG,
c'est bon. Christophe.
Nottingham Forest,
c'est bon. Pascal.
Benfica,
c'est bon. Sarah.
L'AC Milan,
c'est bon. Cédric.
Real.
Real Madrid déjà dit éliminé. Christophe.
Le Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain déjà dit éliminé.
Ah, c'est
moi. Pascal.
Au moins deux.
Donc Pascal.
Attends, c'est pas Sarah.
Je peux dire le Bayern.
Le Bayern, c'est bon. Pascal, bien sûr.
Concentre.
Attention, Pascal.
L'Ajax,
c'est bon. Sarah, elle est en mode.
Ouais, mais elle a tout sur son.
Vas-y.
Je vais la voir.
Ah non, Sarah, ferme-moi ce calepin.
Mais non, mais attends, je note ce qui est en train d'être dit et je barre.
Mais.
Bah, je note ce qu'ils sont dit pour.
Ils le font tous. Ils le font tous.
Allez, Pascal. AC Milan.
Déjà dit, t'es éliminé.
Sarah.
Pascal, tu.
L'Inter de Milan.
Oui.
L'Inter.
De Milan,
Sarah, t'as bossé grave.
Vous pouvez activer la question impossible.
Mais elle joue au Kigali toute la semaine.
Elle les a tous
sur le
question impossible ou pas?
Bah oui.
Qui? Cédric ou Pascal? Pascal a une grosse culture.
Ouais.
Et attends, ça dépend. C'est quoi le sujet? Allez, Pascal, question impossible. Pour revenir. Pascal, je crois en toi. Quoi qu'il arrive, tu perdras pas mon affection.
Pour revenir à un point, peut-être.
Attention, Pascal. Ouais. Qui est le meilleur passeur, passeur de l'histoire de la Première Ligue? Le meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue.
Joueur récent.
Voilà. Christophe Cessieux, t'as regardé s'il n'y a pas de triche en régie, si on ne donne pas la réponse.
Je dis sur les lèvres de Max. Non. Je le connais.
C'est un joueur actuel.
Pascal,
un joueur actuel.
Non, c'est dans l'histoire.
Allez, 5, je suis en train 4, me dire 3, soit Beckham, 2, soit Giggs.
Lequel?
Attends, on a un des deux.
Allez.
Giggs.
Ryan Giggs, c'est bon. Il revient à un point. Question à une seule réponse. Qui a terminé meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions hier?
Joao Neves.
Allez, plusieurs réponses, j'accepte.
Bah, Dembélé.
Égalité. Attention, 4-4. Tout va se jouer là-dessus. Égalité. Question, une seule réponse.
Arrêtez avec le foot.
Qui affronte ce soir Casper Ruud à Roland Garros?
J'ai dit, l'ont dit tout à l'heure.
C'est Paul. Fonseca. Christophe Cessieux. Christophe Cessieux. Il est en larmes. Christophe, c'est
une réponse.
Attendez, passé par toutes les humeurs.
Christophe, un mot pour ta famille et tes proches. Je vous aime.
Je gagne quasiment chaque fois. Bravo,
Christophe. Allez, bah je félicite Quentin, donc qui remporte le cadeau. Bravo, Quentin.
Merci.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Il a résisté à toutes les tempêtes et si un mental s'était révélé aujourd'hui.
Oui, on a
merci Christophe.
Christophe a été bon, calme, serein.
Christophe était dans la résilience. Tu vois, je peux faire ta sur le
bras.
Résilience.
Merci Christophe, merci Sarah. Merci Cédric, Pascal, tu restes avec moi pour les paris.
Merci Fred.
Merci Fred.
Jusqu'à 13h,
les paris RMC.